Passion. Il est 14h10 ici à Paris, 13h10 en temps universel. On retrouve le journal d'Haïti et des Amériques avec Anne Verdagué.
Bonjour à tous. Au programme, aujourd'hui, on va parler à nouveau de cette panne d'électricité au Venezuela avec des conséquences dramatiques pour la population. Stéphanie Schuller nous parlera de la façon dont réagit le régime de Nicolas Maduro. On évoquera également l'arrestation de ces deux policiers au Brésil dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'élu de Rio, Marielle Franco. On parlera également de la venue d'une nouvelle mission politique de l'ONU en Haïti à l'automne prochain. Et puis on ira en Argentine où Audvillier Moriamé nous dira tout sur le combat des footballeuses qui veulent devenir professionnelles dans le pays de Maradona et de Messi. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous avez rejoint pour la revue de presse des Amériques au cinquième jour de la panne de courant généralisée au Venezuela. La situation s'aggrave pour la population, même si dans certains endroits du pays, l'électricité était partiellement de retour.
Oui, les pillages se multiplient, Anne. Les gens cherchent de quoi se nourrir, mais le principal problème de la population est le manque d'eau. Tal cual rapporte que les habitants d'un quartier de Caracas se servent dans la rivière Guaire, pourtant très polluée. Des scènes semblables se sont déroulées un peu partout dans le pays. Dans la ville de Barquisimeto, les habitants se baignent dans les ruisseaux, certains même dans les égouts, selon le journal.
Et puis la frontière entre le Venezuela et la Colombie est aujourd'hui officiellement fermée depuis le 23 février, mais hier, après trois jours donc sans électricité, les autorités vénézuéliennes ont laissé passer les malades au compte-gouttes sur le pont Simon Bolivar. Le reportage de Marie-Ève de Teuf.
Le pont est presque désert, mais les chemins de contrebande, les trochas comme on les appelle ici, fourmillent de gens et de petits trafics. Juste à 100 mètres du pont, il y a une file ininterrompue de Vénézuéliens qui vont et viennent à travers les fourrés sous l'œil indifférent des policiers. Le ton y est au désespoir. Myriam, 38 ans.
On est vraiment mal, on ne peut rien acheter, il n'y a pas de ligne, pas de communication, il n'y a plus d'eau. Depuis deux jours, on est sans eau, alors on a passé la frontière pour venir manger quelque chose et même aller aux toilettes.
Myriam raconte la traversée de la frontière avec son mari et sa fille.
Vous voyez là, dans chaque fourré, il y a une bande armée. D'abord, il y en a une qui te demande 5000 pesos par personne, et puis l'autre t'en demande 3000, et puis 2000, et comme on est trois, on en a eu pour 26 000 pesos.
28 000 pesos, cela fait 8 euros, une fortune au Venezuela. Mais les gens n'ont plus le choix. Gerardo, 47 ans.
Imaginez toutes les frontières fermées et tous ces gens qui sont morts à cause de la panne, comme les malades qui étaient sous respirateur. C'est comme si on était séquestrés. En fait, on est séquestrés.
Dans son regard, il y a de la résignation et il y a de la colère. Marie-Ève de Teuf, Cucuta, RFI.
Et dans ce contexte, Stéphanie, quelle est la réaction du régime vénézuélien?
Eh bien, la maire d'une des communes dont les habitants boivent l'eau impropre de la rivière, elle a estimé qu'il s'agissait là d'un spectacle, je cite, d'une mise en scène, souligne encore tal quel. De son côté, Nicolas Maduro s'est adressé aux bandes armées par le gouvernement qui sèment régulièrement la terreur parmi la population, constate l'apathie. Je lance un appel aux collectivos. Le moment de la résistance active est venu, à déclaré le président lors d'un discours retransmis hier soir à la radio et à la télévision. Ce sont d'ailleurs les collectivos, Anne, qui ont attaqué ces derniers jours les rassemblements spontanés de citoyens qui protestaient contre la panne de courant et le manque d'eau.
Et la répression au Venezuela se poursuit également à un autre niveau.
Oui, un jeune journaliste et cyberactiviste pour les droits de l'homme a été arrêté hier soir en sortant d'une émission de radio à Caracas par les agents de services de renseignement, le SEBIN, rapporte Infobae. Avec Luis Carlos Diaz, le régime s'en prend à une voix qui porte au sein de la communauté des journalistes vénézuéliens. Ces dernières semaines, il avait révélé que le principal fournisseur d'Internet du pays, le CanTV, appartenant à l'État vénézuélien, avait tenté d'obtenir les données personnelles des volontaires qui s'étaient inscrits, vous vous souvenez peut-être, sur les listes mises en place par l'opposant Juan Guaido pour faire entrer l'aide humanitaire au Venezuela.
Ces derniers jours, Luis Carlos Diaz avait reçu des menaces.
Oui, sur Internet, écrit encore Info Abae, mais aussi de manière bien plus directe par les autorités. Ainsi, Díaz de Cabello, numéro 2 du régime chaviste, l'a accusé durant son émission hebdomadaire à la télévision d'être l'un des responsables de ce que le gouvernement chaviste qualifie de sabotage du réseau électrique vénézuélien et de la coupure de courant, rappelle El Comercio.
Et pour clore ce dossier Venezuela, Stéphanie, les États-Unis vont retirer cette semaine l'ensemble du personnel de leur ambassade à Caracas.
Cette décision reflète la détérioration de la situation au Venezuela, ainsi que la conclusion selon laquelle la présence des diplomates à l'ambassade est devenue un obstacle à la politique américaine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur Twitter hier soir, cité aujourd'hui par le Washington Post.
En Colombie, les anciens négociateurs de l'accord de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement de Bogota tirent la sonnette d'alarme, Stéphanie.
La raison, ce dimanche, le président Iván Duque a annoncé qu'il comptait modifier 6 des 159 articles de loi qui régulent la justice transitionnelle prévue dans l'accord de paix. Pour rappel, cette justice de transition prévoit qu'anciens rebelles et militaires qui se soumettent à sa juridiction puissent bénéficier de peines alternatives à la prison s'ils avouent leurs crimes, dédommagent les victimes et s'engagent à ne plus recourir à la violence. Le nouveau chef de l'État colombien, soutenu dans sa démarche par la droite dure, juge certains articles trop laxistes.
Et l'ONU se dit inquiet de ce développement.
Oui, la mission onusienne de vérification en Colombie, en charge de veiller justement à l'application de l'accord de paix, a réaffirmé l'importance du fonctionnement indépendant de la justice spéciale pour la paix en tant que principal instrument de garantie pour le droit à la justice des victimes, signale Semana. Sous le feu des critiques de l'opposition politique colombienne qui reproche au gouvernement de dresser des obstacles à la paix dans le pays, Iván Duque et son ministre des Affaires étrangères, Carlos Holmes Trujillo, ont lancé une offensive internationale pour expliquer leur décision, soulève de son côté El Tiempo. Et pour finir, le quotidien El Espectador prévient « Le vote de ces modifications ne passera pas comme une lettre à la poste. Le gouvernement de Iván Duque dispose d'une majorité au Parlement, mais celle-ci est plus que mince et il n'est pas impossible qu'Iván Duque ait du mal à obtenir les voix nécessaires. »
Merci Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. Et j'ajoute, dans l'actualité des Amériques, cette information du Brésil ce matin, deux policiers soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de l'élu Marielle Franco, élu de Rio, et de son chauffeur, ont été arrêtés. Cet assassinat avait provoqué, souvenez-vous, des manifestations massives dans tout le Brésil et suscité également beaucoup d'émotions à l'étranger.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On retrouve à présent Godson Pierre, notre partenaire d'Alter Press, une mission des Nations Unies bientôt en Haïti. Haïti qui passera bientôt sous le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies.
Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Bouchit Edmond, a en effet annoncé hier qu'à partir d'octobre prochain, le pays ne sera plus placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce chapitre qui concerne les activités de maintien de la paix de l'ONU et les questions dont le Conseil de sécurité est saisi. Haïti sera désormais placé sous le chapitre 6 à partir du 15 octobre 2019, fait savoir le ministre tout en démentant que des soldats onusiens seront présents sur le sol haïtien après la fin du mandat de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. Dans son récent rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé l'envoi d'une mission politique spéciale au titre du chapitre 6 de la charte.
Godson, quel sera le mandat de cette mission politique spéciale en Haïti?
Le responsable onusien a précisé que la mission aura pour mandat de proposer de bons offices et de conseiller le gouvernement dans les domaines précis comme la réforme politique, les élections, la justice, le système pénitentiaire, le développement de la police, la réduction des violences de proximité et les droits de l'homme. Cette mission politique spéciale prendra la forme d'un petit bureau consultatif stratégique dirigé par un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, femme ou homme, aux côtés de l'équipe de pays des Nations Unies, avec l'appui d'un représentant spécial adjoint pour une période d'un an à compter du 16 octobre. La situation reste dominée par la crise économique et politique et la pénurie manifeste de ressources publiques pour pourvoir aux besoins fondamentaux de l'État, reconnaît l'ONU. L'organisation prévoit que les tensions politiques devraient monter d'un cran à l'approche des prochaines échéances électorales, dont les législatives d'octobre.
Godson, dans ce contexte, de nouveaux appels au dialogue ont été lancés pour juguler la crise en Haïti.
Le Premier ministre Jean-Henri Séan a renouvelé hier son appel au dialogue au secteur de l'opposition en vue d'une issue à la crise. À cause de la situation actuelle, beaucoup de personnes laissent le pays. Ça ne doit pas continuer. Il faut nous entendre et dialoguer, a-t-il dit. La chancellerie uruguayenne a demandé à l'Organisation des États américains de donner la priorité à l'analyse de la crise politique et socio-économique que traverse Haïti. Tous les protagonistes impliqués devraient participer à l'élaboration de meilleures propositions afin d'éviter l'aggravation de la situation, souhaite-t-elle. Il est urgent de trouver une solution consensuelle nationale à la crise pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos, a estimé de son côté le comité de facilitation du dialogue interhaïtien mis en place par le président Jovenel Moïse des secteurs de l'opposition, avait rejeté la mise en place de ce comité.
Merci Godson Pierre, notre partenaire d'Alter Presse en Haïti. En Argentine, les footballeuses font leur révolution dans le pays de Maradona et de Messi. Seuls les hommes peuvent jouer professionnellement. Le football féminin, quant à lui, est toujours considéré comme un sport amateur. Une situation insupportable pour les nombreuses footballeuses du pays qui demandent à pouvoir vivre de leur passion. Reportage à Buenos Aires de notre correspondante Audevillier Moriamé.
Elle est la figure de proue du combat pour la professionnalisation du football féminin. Macarena Sanchez, 27 ans, a été renvoyée en janvier du club Huay Urquiza, champion de première division. Elle est depuis plus de 7 ans et n'a pas vraiment reçu d'explication, encore moins d'indemnisation. C'est pour cela que la joueuse a décidé d'attaquer en justice son club et la Fédération Argentine de Football.
C'est la première fois qu'une femme lance une action en justice aussi importante contre la Fédération. J'espère que ce sera un point d'inflexion et que les choses changeront. C'est une bataille qu'on mène toutes.
Macarena dénonce l'hypocrisie des clubs féminins qui ne donnent pas de contrat à leurs joueuses et à la place proposent à certaines des emplois administratifs, une manière de les rémunérer en cachette et de leur permettre de continuer à jouer. La footballeuse espère instaurer un précédent, car si la justice lui donne raison et condamne le club à lui verser une indemnisation, cela pourrait ouvrir la voie à la professionnalisation du foot féminin.
J'ai reçu énormément de soutien. Je savais que ça allait avoir un impact, mais je ne m'imaginais pas à quel point. Malheureusement, je reçois aussi des menaces. Mais je me dis que c'est toujours le cas quand une femme remet en cause le statu quo.
Renvoyée en plein milieu de saison, Macarena ne peut pas rejoindre un nouveau club et risque donc de passer 6 mois sans pouvoir jouer. Nous sommes au club Atlanta, l'un des meilleurs de Buenos Aires en foot féminin. Il est 20h30 et l'équipe est en train de s'entraîner sur la pelouse du stade. Les footballeuses jouent dans le noir complet car le club, qui ne les autorise pas à utiliser ce terrain, refuse d'allumer la lumière. Flavia Calucci est capitaine de l'équipe. Comme toutes ses coéquipières, elle a un travail à temps plein qui ne lui permet de jouer que le soir.
J'ai toujours adoré le football. Mes parents m'ont dit que dès que j'ai su marcher, j'ai tapé dans un ballon. Mais quand j'étais petite, c'était compliqué. Dans les clubs de quartier, c'était mal vu de jouer en étant une fille. Chez moi, on m'a dit, t'es une demoiselle maintenant, tu vas devoir abandonner le foot. J'ai dû rompre avec les préjugés familiaux pour commencer à faire ce que j'aime. J'adorerais me dédier exclusivement au foot, mais c'est impossible. Donc pour l'instant, ça reste un hobby et je dois vivre d'autres choses.
Les footballeuses d'Atlanta s'entraînent 3 fois par semaine, de 20 à 22 heures. Des conditions qui ne leur permettent pas de progresser rapidement, selon Juan Ignacio Granda, entraîneur de l'équipe.
Il y a beaucoup de joueuses qui ont un très grand potentiel, mais qu'elles ne peuvent pas développer au maximum, car elles n'ont pas le temps de se consacrer complètement au football. Les joueuses arrivent toujours à un stade où elles voient que le football ne leur donne pas beaucoup de possibilités d'avenir. Donc elles commencent à favoriser leurs études ou leur boulot, alors qu'un footballeur pro peut se consacrer entièrement au foot. C'est assez injuste et inégal.
Sur les gradins, Mélina Keller encourage les footballeuses. Cette journaliste, qui travaille comme commentatrice pour l'équipe masculine d'Atlanta, a eu du mal à s'imposer dans cet univers machiste.
Quand je suis arrivée au club, les premières réflexions que j'ai entendues, c'était « Sérieusement, une femme pour commenter les matchs ?» Sur Internet, les gens laissaient des commentaires et me traitaient de féminazie. Mais je ne me suis pas laissée faire, je m'en fichais. Je crois que ces dernières années ont été importantes pour que, dans ce milieu du foot si machiste, les femmes commencent un peu à s'affirmer et disent « Hey, on existe, regardez-nous ».
Melina estime qu'il y a du changement dans l'air. En septembre dernier, pour la toute première fois, une femme a été nommée présidente d'un club de foot masculin de première division. Audeville-Moriamé, Buenos Aires, RFI.
Voilà, et l'équipe nationale d'Argentine participera cette année à la Coupe du Monde du foot féminin qui se jouera en France. L'actualité ultramarine à présent avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Julie Straboni. Bonjour Julie.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, aujourd'hui un prédateur sexuel présumé a été interpellé en Guadeloupe.
Il était devenu le cauchemar des femmes habitant en Basse-Terre. Depuis une semaine, un homme avait violé à 4 reprises, profitant des jours gras et du carnaval. C'est l'une de ses victimes qui, après l'avoir reconnu, l'a dénoncé, alors qu'une véritable psychose s'installait, Steve Prudent.
On peut en parler dans le cadre d'une affaire pour le moins sordide. On ignore l'âge exact de l'individu actuellement entendu par les policiers, mais il nous a été décrit comme plutôt jeune, d'origine dominicaise. Il serait sorti de prison il y a tout juste quelques semaines. On en sait peu également sur les circonstances exactes de son passage à l'acte, mais une certitude, sa première agression remonte au lundi gras, dans la nuit du défilé nocturne à Basse-Terre. Depuis, pris dans ce qui s'apparente à une forme de frénésie, toujours en région basse-terrienne, 3 autres femmes d'âge divers ont été à leur tour la proie de ce prédateur. C'est l'une des victimes, vous l'avez dit, qui, après l'avoir reconnu, l'aurait signalé aux policiers. Un signalement qui a permis aux hommes de la brigade anticriminalité d'appréhender hier le présumé coupable. Depuis, au commissariat de Basse-Terre, comme le prévoit la procédure, il a été placé en garde à vue avant une probable présentation devant un juge d'instruction.
Steve Prudent de Guadeloupe, La Première. Le cartable connecté fait son entrée dans les établissements de santé de la Martinique. Le dispositif a été inauguré à l'hôpital du Carbet. L'outil est destiné aux enfants. Il est composé de 2 caméras et il leur permet de participer à des cours à distance à travers une tablette. Le reportage de Jean-Baptiste Anatole.
Le cartable connecté, une petite révolution dans le monde éducatif. Il permet aux élèves hospitalisés de ne pas se déconnecter de l'école. Émilie Bastol, enseignante au centre hospitalier du Carbet.
Pour l'avoir expérimenté depuis 2 mois, je pense que c'est un bon outil, tant pédagogique que thérapeutique. Pédagogique parce qu'il permet à l'enfant de suivre ses cours avec son professeur et il lui permet également d'être en contact avec ses camarades de classe. Donc, au-delà du bienfait pédagogique, l'enfant a une ouverture sur l'extérieur et son quotidien ne se résume pas aux soins.
Seulement 6 académies sur le plan national sont ainsi équipées. La Martinique est 6e sur la liste. Ce cartable numérique est indispensable dans le cursus de l'enfant hospitalisé.
Et puis fin du blocage du site de l'Office national des forêts en Guyane. Le collectif des chasseurs s'est entretenu avec la direction. Ils disent souffrir de relations conflictuelles avec les agents forestiers. Ils remettent également en question les barrages qui bloquent l'accès aux pistes forestières et souhaitent être libres de chasser où bon leur semble. La forêt qui couvre près de 8 millions d'hectares, soit 96% du département guyanais. À demain.
Merci Julie Straboni et à demain, on se retrouve donc à 14h10 pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. On termine en musique avec Hervé Selcal et Anti-Chopin. C'était donc Hervé Selcal et Anti-Chopin. Merci d'écouter RFI. Restez avec nous dans une poignée de secondes. Le retour de l'information sur la radio du monde.